Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 29 janvier 2025, adoption de l'avis du CESE, intitulé « La restauration de la nature, face à l'urgence, donnons l'envie d'agir ». Qu'est-ce que le CESE ? Quel est son rôle dans notre République ? Quel est le plan européen que rejoint cet avis ? En quoi les dernières actualités de ce début d'année s'opposent drastiquement à l'engagement européen du plan restauration de la nature, voté et approuvé l'an dernier ? Commençons par découvrir ensemble ce qu'est le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, conseille le gouvernement et le Parlement. Il représente les organisations de la société civile et associe les citoyens à la vie démocratique. Le CESE est ainsi un des rares endroits en France où des chasseurs peuvent discuter et débattre avec des défenseurs des oiseaux, où des représentants du MEDEF peuvent travailler avec des représentants de la CGT, où des personnes aux intérêts apparemment contraires parviennent à se mettre d'accord et à proposer ensemble des solutions aux grandes problématiques de notre pays. C'est également la seule institution de notre pays où sont représentées les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. 175 conseillers et conseillères sont donc nommés pour 5 ans dans ce conseil. Suite au constat que plus de 80% des habitats naturels de l'Union européenne sont dans un état de conservation médiocre ou mauvais, tourbières, dunes et prairies, et que 70% des sols sont en mauvaise santé, l'Europe s'est mobilisée. Après plusieurs années de débats sur le sujet, via une loi européenne pour la restauration de la nature, sujet de l'épisode Feuilles de chou numéro 39, en podcast, sur le site de notre radio PFM 99.9. Selon le règlement européen adopté à l'été 2024, qui fixe l'objectif de restaurer au moins 30% de ces terres et mers dégradées d'ici 2030, et l'ensemble des écosystèmes d'ici à 2050, la France doit, d'ici le 1er septembre 2026, comme tous les États membres de l'Union européenne, définir et mettre en œuvre un plan national de restauration, précisant les espaces ainsi que les actions prévues. C'est pourquoi le CESE a souhaité apporter sa contribution à l'élaboration de ce plan avec les préconisations de la société civile pour restaurer la nature. Pour le CESE, le plan national de restauration de la nature est l'occasion de mettre en cohérence les politiques et outils existants. Au vu de l'urgence à agir et réussir la restauration de ces écosystèmes, le CESE appelle à une collaboration concertée à tous les niveaux pour une action efficace, en mobilisant l'ensemble des parties prenantes, services de l'État, collectivités, associations, particuliers. Il est crucial d'expliquer les choix, de fournir l'appui nécessaire à l'engagement et de rendre visibles les bénéfices d'une nature restaurée pour la société. La France pourra ainsi relever le défi d'inscrire son développement dans le respect de la nature. Pour élaborer cet avis et formuler ses préconisations, le CESE a auditionné plusieurs parties prenantes, acteurs publics, entreprises, associations. Vous pouvez découvrir toutes les vidéos de ces interviews sur le site du CESE, ainsi que le reportage du déplacement de la Commission Environnement sur deux lieux restaurés, un marais et une tourbière en Seine-Maritime. Le président de la Commission Environnement, Sylvain Boucheran, a rappelé en introduction de ce vote que
« Restaurer la nature est un enjeu majeur pour notre pays et notre territoire, car la biodiversité des écosystèmes qui fonctionnent, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas celle des autres acteurs et d'autres pays comme on l'entend parfois sur le climat. La biodiversité, c'est notre territoire. C'est notre cadre de vie. C'est ce qui rend notre agriculture compétitive. C'est ce qui permet à notre économie de fonctionner, aux travailleurs d'avoir du boulot, d'être en bonne santé. Ce qui permet d'avoir des matières premières locales et de qualité. ce qui permet aux familles d'avoir des espaces récréatifs, ce qui permet à notre jeunesse d'avoir un avenir.
Dans cet avis, le CESE développe trois axes afin d'avoir un plan national solide. Premièrement, en assurant une meilleure gouvernance, notamment en travaillant au niveau local sur le modèle des schémas territoriaux de restauration écologique et en accompagnant les acteurs localement via un guichet unique géré par les agences régionales de la biodiversité. Pour info, celle des Hauts-de-France a été créée il y a seulement 2 ans sur notre territoire. Secondo, en renforçant les connaissances, en mobilisant les compétences et en favorisant l'engagement populaire. Notamment, en créant un centre de ressources nationales coordonné par l'Office français de la biodiversité, en engageant une campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation à destination du grand public autour des objectifs et des projets de restauration de la nature. En intégrant au plan national de restauration de la nature une trajectoire chiffrée pour développer la formation et la montée en compétences des professionnels. Et pour finir, en reconnaissant l'engagement des propriétaires privés ou publics dans la restauration de la nature, via un label par exemple. Troisièmement, en développant les outils déjà existants mais peu accessibles ou insuffisamment attractifs, par exemple. En relançant la dynamique des contrats dans le réseau Natura 2000, le déploiement, l'attractivité et l'accompagnement en faveur d'outils, notamment l'obligation réelle environnementale, la fameuse OR, et les baux ruraux environnementaux. Bien entendu, cela nécessite de garantir les besoins financiers du plan via le fonds vert, assurer le suivi des budgets verts des collectivités locales et des outils de financement innovants ou peu déployés, les paiements pour les services environnementaux, les certificats à crédit biodiversité, veiller à l'intégrité écologique et à l'ambition des mécénats. Quoi qu'il en soit, une condition de réussite s'impose, la réduction en amont des pressions sur la nature. Cela implique de réduire les dépenses publiques dommageables à la biodiversité et d'assurer le respect des politiques de zéro artificialisation nette et de la séquence éviter, réduire, compenser. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Ces préconisations semblent éloignées de ce que les actualités réglementaires et politiques ont à nous offrir ces dernières semaines. Petit rétro-pédalage en accéléré car l'affluence des infos fait rage et je peine moi-même à cibler les plus importantes tant il y en a. Le budget de l'État a été voté le 6 février dernier et la section écologie écope d'une réduction de 24 milliards à 21 milliards de budget, avec pour conséquence directe la réduction de crédit pour le fonds vert, PrimaRénov' et les véhicules électriques. L'adoption le 30 janvier de la loi préservation et reconquête de la haie, avec des objectifs chiffrés pour la préservation et la gestion durable des haies, dont une augmentation du linéaire de 100 000 km entre 2024 et 2030. Le projet de loi Duplon, qui vise à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Dans ce texte, l'agriculteur est un producteur, les pesticides sont des leviers indispensables à l'exercice de son métier, les retenues d'eau sont des ouvrages d'intérêt majeur et les agents de contrôle de l'environnement sont des freins à l'exercice de leur métier. Approuvé par le Sénat fin janvier, il a été lu pour la première fois à l'Assemblée nationale le 28 janvier. Le reste va se jouer dans les semaines à venir, voire les jours. Le projet de loi d'orientation agricole ou loi pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture doit être voté le 18 février prochain. Et il prévoit notamment de maintenir un haut niveau de protection des cultures en refusant des interdictions de produits phytopharmaceutiques sans solution économiquement viable, autrement dit, pas de contraintes de nocivité sur la santé humaine et les écosystèmes car l'important c'est de produire. Ce texte en l'état met l'accent sur une production agricole compétitive, quoi qu'il en coûte. En réaction à ces derniers mois, il n'est donc pas étonnant que le 6 février dernier, une coalition d'acteurs réunis au sein de l'institution de la transition foncière a lancé un appel à une politique nationale cohérente de protection et de gestion des sols face à une situation jugée alarmante en France. À l'heure des inondations massives dans le Pas-de-Calais, dans les Alpes, en Bretagne, des méga-feux dans les Landes et de la raréfaction de la ressource en eau, protéger les sols et leurs fonctions, c'est protéger les populations, poursuit le communiqué, plaidant pour une approche qualitative des sols Cet appel est notamment porté par la région Bretagne, la métropole de Lyon et le département de Loire-Atlantique, ainsi que par l'Ordre des géomètres experts et le Conseil national de l'Ordre des architectes. Les mesures proposées se déclinent en quatre axes: connaître les sols et leurs fonctions, gouverner les sols en créant une délégation interministérielle des sols, financer la sobriété foncière pour encourager les projets les moins artificialisants et mieux accompagner les territoires. Parmi les 14 propositions formulées, le collectif suggère d'établir une définition légale des sols qui fasse autorité. À ceux qui auraient des idées encore à proposer, le fameux CESE, Conseil économique, social et environnemental, possède également une plateforme sur laquelle chacune et chacun peut déposer une pétition. Si celle-ci recueille 150 000 signatures, le CESE a l'obligation d'examiner le sujet de la pétition. Deux voix veulent nous embarquer dans une aventure sur une île où l'héritage du passé aspire à un avenir plus mélodieux. Tendons un instant la feuille à un récit fantastique d'une contrée où les animaux se parlent entre eux. Tortues, grands roseaux et petits clous.
Elle se nommait Tortue, comme tant d'autres qui lui ressemblaient trait pour trait. Elle se nommait Tortue, mais cette tortue-là était unique, comme chacune et chacun sur la terre. Et au village du bout de l'île, tout le monde l'aimait. Tortue savait parler, Tortue savait se taire. Tortue savait jouer, rire et pleurer. Sous la lune, Tortue savait chanter, et une mélodie bien à elle. En un mot, Tortue savait vivre. Mais Tortue était si vieille, très vieille. Et jour après jour, elle était même de plus en plus vieille. Tortue savait beaucoup de choses sur la vie, et les vagues de la mer qui vont et viennent. Tortue savait aussi beaucoup de choses sur la mort, et elle sentait que sans bruit, comme on marche dans le sable, celle-ci approchait pas à pas. Alors un soir, sur la plage, autour d'un feu, elle réunit ses meilleurs amis. Il y avait là Castor, Loutre et Crapaud. Et il y avait aussi le fils de Crapaud, un petit aux yeux vifs. Un petit qui aimait tant Tortue qu'il la suivait partout. Il se nommait Po.
« Mes amis, »
dit Tortue,
« je vais bientôt vous quitter. »«
Où vas-tu aller ?» demanda Po. « Où tu iras, j'irai. » »«
Non, cher Po, où j'irai, tu ne pourras pas me suivre, car la mort, c'est encore trop loin pour toi. »
Po baissa les yeux et ne dit plus rien.
« Croyez-moi, je le sais, c'est là, au creux de ma carapace. »
Castor, Loutre et Crapaud baissèrent les yeux et ne dirent plus rien. Tortue continua.
« Avant de mourir, je tiens à offrir un cadeau à chacun de vous. Oh, pas grand-chose. Juste un souvenir confectionné avec mes pattes et mon amour. Vous en ferez ce bon vous semble. »
À Castor, Tortue tendit deux morceaux de tissu brodé. À Loutre, elle donna deux baguettes de bois gravées. À Crapaud, une clochette en terre cuite. Enfin, Po hérita d'un roseau et d'un clou.
« C'est quoi ce bout de roseau et ce clou ?»
demanda Po, un peu déçu.
« C'est un grand roseau et un petit clou que j'aime bien, »
répondit Tortue avec un clin d'œil. Une nuit, Tortue se glissa sous le sable chaud et ferma les yeux pour la dernière fois. Le lendemain, ses amis découvrirent qu'elle était morte. Sur son visage, un sourire demi-lune. Tous les habitants de l'île se réunirent et on porta Tortue jusqu'au rivage. Avec délicatesse, comme on le fait de la coque d'une barque, on retourna sa carapace et on la posa sur l'océan.
« Maintenant vogue, vogue Tortue !»
murmura Castor. Pour accompagner Tortue au fil de l'eau, il y eut des fleurs et du silence. Qui serrait fort entre ses pattes son grand roseau et son petit clou, pleurait. Crapaud, qui serrait fort son fils contre lui, murmura à son oreille.
« Tu vois, quand quelqu'un meurt, c'est un peu comme un bateau qui s'éloigne vers l'horizon. Il y a un moment où il disparaît. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus qu'il n'existe plus. Tortue sera toujours là, dans nos cœurs. »
Po écouta son père, mais ce matin-là, le chagrin noyait tout. De l'aube au crépuscule passèrent ainsi les jours. À la lueur de feu, il examinait les cadeaux de son ami, comme si le petit clou allait parler et tout lui expliquer. Et puis, un beau jour de printemps, Po accourut sur la plage. À l'ombre des palmiers, c'était gymnastique pour Castor. Loutre et crapaud, depuis quelque temps, bougeaient de nouveau. Gampette, tête et fesses, au rythme des vagues, leur faisaient grand bien. Et parfois, s'échappait un rire en surprise. Tout excité, Po s'écria.
Apportez les cadeaux que Tortue nous a fait avant de mourir.
Castor, Loutre et Crapaud s'exécutèrent aussitôt. Et trois coups de marteau, Po tendit sur deux grosses courges, vides, les tissus brodés que Tortue avait offerts à Castor. Et il suggéra.
Castor, avec ta queue, bats donc le tempo sur un de ces tambours là. Et toi, Loutre, avec tes baguettes, improvise sur l'autre un swing à ton idée.
Crapaud, lui, se mit à secouer sa clochette, en cadence, avec un talent certain. Et pour un style plus jazzy, il claqua même de la langue. Puis voilà que Po porta à ses lèvres le grand roseau. Car ce roseau, il avait enfin eu l'idée de le percer de trop, à l'aide d'un petit clou. Dans le bleu du ciel s'éleva alors un chant étonnant. Au village du bout de l'île, on se demanda.
Tiens, on dirait la mélodie de cette chère tortue, serait-elle revenue ?
Et on se précipita sur la plage pour y découvrir
un concert sous les palmiers.
Devenus musiciens, les amis souriaient, le cœur soudain ravi. Sur le sable, la joie au bout de ses pattes, on se mit à danser. Léger, Po ne cessait plus de jouer de son roseau. Le soir revenu, une lune ronde apparut au-dessus de l'île. Po leva le nez et crut voir le doux visage de Tortue. À la surface de l'eau, un rayon déposa sa caresse. Et sous ce clin d'œil, toute la plage scintilla.
Une musique qui s'élève pour guider nos pas dans les moments les plus complexes. Et si la musique venait de la terre elle-même ? Le 14 et 15 mars prochain, organisé par la Fabrique d'Avenir en partenariat avec l'UNESCO, l'Université de la Terre est un rassemblement pour tous les acteurs de la société qui propose deux jours de découvertes et d'échanges, de réflexions, de partages, de débats sur les grands défis qui menacent notre planète, le vivant et la cohésion sociale. À l'occasion de ses 20 ans, l'Université de la Terre propose un programme assez exceptionnel. 50 sessions sous forme de plénières, débats, ateliers, expositions, spectacles vivants, musicaux, qui mobiliseront plus de 200 intervenants. 5 parcours sont proposés autour du thème « Nature égale futur ». Le parcours « Biodiversité » invitera à redécouvrir le lien essentiel entre l'humanité et la nature et proposera des sessions variées pour explorer la richesse du vivant. En tant que parrain de l'édition 2025, des experts de l'Office français de la biodiversité interviendront lors de plusieurs sessions. Pendant les deux jours de l'événement, l'OFB accueillera également les participants sur un espace dédié situé dans le village partenaire. Des agents de l'OFB seront présents pour présenter l'établissement, ses missions, notamment la police de l'environnement, et répondre aux questions des visiteurs. Un programme tout public d'animation sera proposé en continu, de 9h à 18h. Quiz, jeux, casques de réalité virtuelle, expo photo. La participation aux sessions est payante, 7 euros par conférence ou atelier, et sur inscription obligatoire. Rendez-vous les 14 et 15 mars à la maison de l'UNESCO à Paris. Les scientifiques sensibilisent et les artistes émerveillent. Oserons-nous dès lors imaginer un monde où les consciences humaines se lèvent pour un avenir enviable ?
d'acajou.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous recevons sur les ondes un passionné du vivant cuisiné aux petits oignons.
Cyprès, pain des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.